Bonjour et encore merci à toute l'assistance, d'autant plus qu'aujourd'hui c'est le Mardi Gras et je ne sais pas si c'est le meilleur moment pour s'occuper de Fénelon et du pur amour, parce que le titre, enfin aujourd'hui je pense essayer un autre point de vue sur le binôme que j'ai proposé dans ma dernière conférence. Là, c'était la fable classique et la fable mystique. Cette fois, je propose pur amour et tragédie. Donc, cette fois, nous sortirons de l'horizon du Télémaque. Pour fixer notre point de perspective, à partir de ce texte de Fénelon qui nous a aidés il y a une semaine à porter un nouveau regard sur ces épisodes du roman pédagogique où il est question de Vénus et de l'amour. Donc c'est l'opuscule de Fénelon sur l'amour pur qui nous a amené à envisager le pouvoir d'initiation spirituelle que pourraient receler ces récits d'un amour impur, amour propre, amour passion. Aujourd'hui, je le dis tout de suite, Fénelon et son idée de l'amour pur seront l'élément focalisateur plus que l'objet focalisé. Donc je pense m'arrêter d'abord sur l'opuscule de Fénelon. Après, je vais faire des digressions dans la littérature de l'époque, dans la fable moderne, dans la tragédie, et sans perdre de vue le centre qui nous intéresse et sur lequel je reviendrai pour conclure. Donc, l'opuscule de Fénelon sur le pur amour n'a été publié que posthume en 1618. Ne fût-ce que par ce retard et par ce retrait, il s'annonce comme un texte hardi, où l'archevêque expérimente la possibilité d'exploiter le témoignage des anciens en faveur du fondement de sa spiritualité de moderne, l'universalité de l'aspiration humaine à une amitié parfaitement désintéressée. Bien que posthume et sans doute mal connu, l'opuscule n'est pas isolé dans l'œuvre de l'archevêque de Cambrai, puisque d'autres pages de Fénelon font écho à ses idées les plus originales. En particulier, la troisième lettre à l'archevêque de Paris sur son instruction pastorale et la lettre à l'évêque de Meaux, donc à Bossuet, sur la charité. Cet opuscule se partage nettement en deux volets. La première partie traite l'idée de pur amour dans sa formulation la plus radicale, qui implique la supposition impossible « et si Dieu ne voulait pas que je sois sauvé ?» Et le renoncement conditionnel au salut éternel, qui était la réponse des mystiques. Donc, « si Dieu ne voulait pas que je sois sauvé, alors je renoncerai, j'accepterai ma perte pourvu que je ne cesse pas d'aimer. » Pour Fénelon, ces deux formules se déduisent de la vérité théologique d'un Dieu qui crée tout ce qui existe uniquement pour sa propre gloire. Dieu a fait toute chose pour lui-même. Ce sont les premiers mots de l'opuscule qui nous régale ensuite d'un bel alexandrin. C'est pour sa gloire même qu'il veut notre bonheur. Et il continue en prose, disons, « Notre bonheur n'est qu'une fin subalterne qu'il rapporte à la fin dernière essentielle qui est sa gloire. Il est lui-même sa fin unique et essentielle en toute chose. » Dieu est fidèle à ses promesses, mais elle ne l'engage pas, puisqu'elles sont gratuites. Dieu ne nous doit rien. C'est un titre de Kolakowski bien connu. Ses promesses dépendent à chaque fois d'une décision de sa liberté, si bien qu'on est suspendu à chaque instant sur l'abîme de la perdition. C'est une image de Fénelon. De la même manière que le fil d'une volonté créatrice soutient la création sur l'abîme du néant. La seconde partie de l'opuscule plus brève, intitulée « Témoignage des païens », veut montrer que l'amour pur, exempt du motif de la récompense, est prêt à renoncer jusqu'à la vie éternelle, loin d'être une chimère théologique, représente l'idéal des philosophes de l'Antiquité et s'inscrit déjà dans le mythe. Qui plus est, il s'inscrit même, par des caractères inverses, dans le cœur humain corrompu. Avant de citer Cicéron et Socrate, Fénelon reconnaît dans la tyrannie totalitaire de l'amour-propre la contre-preuve de l'absolu auquel doit parvenir un véritable amour. L'amour-propre est sans doute en ce sens le parfait modèle de l'amitié désintéressée. C'est un beau paradoxe. Si bien que l'amitié avec ses susceptibilités, la passion avec sa jalousie, l'amour de soi avec son avidité deviennent de façon paradoxale mais réelle une école du pur amour. L'opuscule formule ensuite une définition très platonicienne de l'amour pur. En tant que seul amour du beau, du bon, du vrai, du parfait en lui-même, caractérisé par une vocation à l'extase, Platon dit souvent que l'amour du beau est tout le bien de l'homme, que l'homme ne peut être heureux en soi et que ce qu'il y a de plus divin en lui, c'est de sortir de soi par l'amour. Et il en va chercher dans les terres lointaines de la fable un exemple que Fénelon prédilige et sur lequel il revient plus d'une fois, c'est-à-dire l'exemple d'Alceste, l'héroïne de Ripide, qui a donné sa vie pour son époux, une vie sans aucune promesse d'éternité. Je cite Fénelon, « Alceste est l'admiration des hommes pour avoir voulu mourir et n'être plus qu'une vaine ombre, afin de faire vivre celui qu'elle aime. Cette perte de tout soi-même pour jamais est aux yeux de tous les païens ce qu'il y a de plus divin en l'homme. » La beauté d'un tel exemple, de cet au-delà sans lumière, de cet état d'ombre accepté par amour, fascine l'archevêque non moins, peut-être plus, que d'autres exemples tirés de la tradition biblique comme la prière de Moïse ou celle de saint Paul, qui voudrait être séparé de Dieu en faveur de ses frères juifs. Jacques Lebrun, dans Le pur amour de Platon à Lacan, exerce à bon droit l'art du soupçon. En comparant l'opuscule de Fénelon au banquet de Platon, il en découvre les dessous, c'est-à-dire les glissements significatifs qui ont amené l'archevêque de Cambrai à privilégier certains aspects du dialogue platonicien. En particulier, il nous montre que l'exemple d'Alceste, héroïne de l'amour pur, un amour qui trouve sa récompense dans le salut d'autrui, était dépassé dans la dynamique du dialogue de Platon par d'autres exemples d'amour pur. Achille suit Patrocle dans la mort, sans en espérer aucun prix, même pas la vie de l'ami. Or, le paradoxe théologique de l'amour pur chez les mystiques du XVIIe siècle est si vertigineux qu'il dépasse effectivement la sphère de l'amour pur, récompensé par le bien d'autrui. S'il est vrai que dans l'amour pur, la perte de soi est inconditionnelle et qu'elle se greffe sur le rapport créateur-créature, plus que sur une dynamique de rédemption. L'opuscule lui-même le souligne avec cette écriture neutre, quelqu'un a dit écriture blanche, où semble s'enliser le pathos de l'aventure spirituelle. Je cite, « Les hommes frémissent dès qu'on leur explique qu'il faut préférer Dieu et sa gloire à nous et à notre béatitude. Voilà une vérité qui est dans l'essence même de la créature, qui devrait soumettre tout le cœur et qui les scandalise néanmoins quand on l'approfondit. » Je reviendrai sur cette voie blanche, sur cet aspect déchirant de la pureté fénelonienne. Reste que dans le domaine de la fable et dans son opuscule, Fénelon ne s'attarde que sur l'exemple d'Alceste, auquel il prête un sens ultime, indépassable, cette perte de tout soi-même pour jamais. Que cet exemple autorise l'impensable, c'est-à-dire la compréhension par l'amour humain de l'amour de Dieu. Et en tout cas, l'amour pur d'Alceste est bien tout ce qu'il nous faut d'amour pur pour entreprendre un excursus dans le monde de la tragédie. Cet excursus ne suivra pas, je le déclare tout de suite, la trace royale que l'œuvre de Jacques Lebrun a déjà esquissée et que j'évoque ici rapidement, dans le pur amour de Platon à Lacan. Le grand spécialiste de Fénelon a pris son point de départ dans l'opuscule de Fénelon pour un parcours qui relie le tragique ancien et ses réécritures modernes, dont les relais seraient les mystiques de la première modernité. Les textes anciens sont sollicités par des clés de lecture propres à notre époque et aptes à dire son cœur de ténèbres. L'expérience abyssale de l'absence, la prise en compte du mystère du mal, la pulsion de mort qui peut s'exprimer dans un héroïsme sans espoir. D'un côté, une équation est posée qui intéresse la suite de ma propre lecture. La fable et la philosophie antique occupent, par rapport à la question du pur amour, une place symétrique à celle que peut occuper la littérature profane de l'époque de Fénelon ou de la nôtre, quand celle-ci témoigne de l'universalité de l'aspiration au pur amour. De l'autre, le laboratoire imaginaire de la littérature païenne et profane, dans la mesure où il ignore l'horizon de la rédemption et la promesse d'un bonheur éternel, s'avère être celui où l'idée de pur amour sans espoir de récompense est poussée jusqu'aux conséquences les plus vertigineuses. C'est dans le miroir païen et profane que l'idée de pur amour se révèle à la fois tragique et universelle. Dans le livre de Jacques Lebrun, on assiste à un défilé de personnages issus de la fiction narrative ou dramatique, de Griselidis au héros du cycle des Coufontaines dans la trilogie de Paul Claudel. Ces personnages incarnent dans des intrigues humaines et mondaines une problématique philosophique et théologique à laquelle, d'autre part, la psychanalyse, notamment la pensée de Lacan, apporte ses lumières ou ses ombres. Le pur amour est des limites, paradoxes théologiques qu'on ne peut regarder fixement, non plus que le soleil ou la mort, trouve de nouvelles configurations dans les textes mystiques depuis Eckhart jusqu'à Boehme, en passant par le XVIIe siècle français, serait la référence secrète. En particulier, c'est la trilogie de Claudel, commentée par Lacan dans son séminaire, comme il s'est bien connu, le séminaire sur le transfert, qui dessine à partir de ce principe les conditions limites d'une tragédie moderne. Dans l'otage, Signe, ce personnage au nom d'oiseau, proteste le curé de Torcy de Bernanos. Signe est appelé par les circonstances, à un don de soi qu'aucune morale ne peut imposer et qui implique paradoxalement une perte de son âme. Au-delà de l'idée de bien, au-delà du sacrifice pour une cause ou pour un être chéri, au-delà de l'amour pur, la négation de soi à laquelle parvient Signe de Coufontaine révèle l'aspect d'un sacrifice et une transcendance vide. Il faut dire que Signe renie son amour pour son cousin et sa loyauté envers son cousin pour ne pas manquer à un plus grand amour. Qui lui semble lui manquer? Qui épuise toutes ses possibilités jusqu'à la vider d'elle-même sans rien lui donner en récompense? L'ombre du dieu méchant de la tragédie antique semble planer sur ce drame moderne, un Dieu dont dépend, selon Ricoeur, l'aberration de la destinée humaine. Ce Dieu qui, en régime chrétien, ne peut pas être pensé, mais qui a pu être écrit, si l'interprétation de Lacan n'est pas dépourvue de sens, ou au moins évoquée comme un fantasme face aux vicissitudes de l'histoire et au déchirement de l'existence par ce dramaturge chrétien et ce poète mystique qu'est Paul Claudel. Jusqu'ici, c'est Jacques Lebrun qui nous conduit. Je ne le suivrai pas dans cette perspective qui relie la radicalité du pur amour à un tragique moderne de l'absence et jusqu'à l'hypothèse angoissante d'un mal qui alignerait dans le vide absolu. Mais avant de nous détourner de cette perspective, il convient peut-être de rappeler que ce regard dans l'abîme, Fénelon l'a jeté dans certains passages de son œuvre spirituelle. Cette hypothèse d'un Dieu qui serait un Dieu méchant, qui serait la configuration antique, païenne, d'une plus moderne divinité, du non-sens et de l'absurde, Fénelon l'a envisagé pour l'écarter dans ses lettres de direction où les épreuves de la vie spirituelle sont décrites avec une douloureuse acuité psychologique. Les épreuves qui affinent l'amour, le sentiment de l'absence de Dieu, la sécheresse, le dégoût de Dieu et de soi-même, l'angoisse, le désespoir du bien, sont évoquées dans certaines pages de Fénelon comme l'action d'un Dieu médecin, un Dieu chirurgien, qui n'hésite pas à faire souffrir ceux qu'il aime. Le maître spirituel s'abandonne alors à des anthropomorphismes, anthropologie, dit-il, où la plainte de Job semble frôler l'expression blasphématoire. Je cite un passage qui m'a toujours beaucoup frappé. « Ôter à un homme ses habits, c'est le traiter mal. » Mais ce n'est rien en comparaison de la rigueur qui l'écorcherait et qui ne laisserait aucune chair sur tous ses os. Couper les branches d'un arbre, bien loin de le faire mourir, vous fortifiez sa sève. Il repousse de tous côtés, mais attaquer le tronc, dessécher la racine, il se dépouille, il languit, il meurt. C'est ainsi que Dieu prend plaisir à nous faire mourir. Ça, c'est Fénelon. C'est ainsi, j'ajoute, que dans la souffrance spirituelle s'inscrit en anamorphose le visage d'un Dieu que la foi nue, la foi seule, reconnaît comme amour infini. Il y a eu un beau livre, il y a quelques années, un livre discutable, à mon avis, de Michel Terechenko, qui s'intitule « Amour et désespoir » et qui propose une nouvelle interprétation du pur amour fénelonien comme une réponse suprême à une angoisse suprême qui est justement celle de l'incertitude du sort, de son sort éternel. Voilà. Bon. Je ne veux pas approfondir cet aspect tragique de l'œuvre de Fénelon. Cette pédagogie qui, un peu comme Télémaque dans sa descente aux enfers, affronte la mort et l'épreuve de la violence intérieure, pour aboutir à une image purifiée de Dieu. Il m'intéresse ici plutôt de renverser la perspective et la direction de l'enquête. Au lieu de lire Fénelon à la lumière sombre d'une pensée tragique, antique ou moderne, je voudrais rechercher, avec des coups de sonde, dans la tragédie du XVIIe siècle, des configurations de l'idée de pur amour, que le point de vue tardif de l'opuscule sur le pur amour permettrait de mieux apprécier. Y a-t-il dans la littérature du XVIIe siècle, dans la tragédie de l'époque, des indices réels de cette universalité de l'idée de pur amour que Fénelon affirme dans son opuscule ? Alceste a-t-elle des sœurs ou des frères sur la scène, disons pour simplifier, de Corneille ou de Racine? De quelle manière peut-on représenter l'exigence d'une amitié totalement désintéressée dans le système poétique et politique de la tragédie du XVIIe siècle? La lettre à l'Académie ne nous fournit pas de réponse. La critique de Fénelon est esthétique et morale, plus que philosophique ou spirituel. Lui qui a si bien compris la portée symbolique de la fable ancienne, il ne s'attarde pas sur ce qui paraît une évidence au lecteur d'aujourd'hui, c'est-à-dire la possibilité de lire la littérature profane et mondaine du grand siècle français dans son éloquence et ses réticences, y compris celles qui concernent le nom de Dieu, comme le miroir d'une anthropologie chrétienne sensible au débat théologique de l'époque. Inutile d'ajouter que le voile de cette fable moderne est parfois très subtil. Cela arrive lorsque Racine dans Phèdre fait résonner les accents funèbres liturgiques du Dies Irae, lorsque Corneille fait débattre ses héros au sujet de l'amour ou de la grâce, ou lorsque la princesse de Clèves invoque le repos de la part du duc de Nemours. Au nom de Dieu, au nom de Dieu, laissez-moi en repos. Ce Dieu que le roman rigoureusement sécularisé ne nomme jamais, sauf cette unique fois où la princesse, comme le Christ de Pascal, a prié les hommes et n'en a pas été exaucée. Alors, je vous propose un coup de sonde dans certaines tragédies de Corneille et après de Racine. Au moins deux tragédies de Corneille, l'une et l'autre relativement tardives. Per Tarit, 1653, et Tite Berenice, 1670, nous offrent des éléments de réflexion à ce sujet. Dans toutes les deux, on écoute des définitions de l'amour qui utilisent des termes propres à la tradition courtoise, bien sûr, et encore plus, j'espère le démontrer, au débat théologique et spirituel de l'époque. Amour pur et amour propre, amour servile et mercenaire, grâce, récompense, intérêt, espoir du salaire. Un lexique extraordinairement, économique. On commence à avoir le goût de cet utilitarisme qui va devenir la philosophie caractéristique de la fin du XVIIe et surtout du XVIIIe siècle. La précision de ce lexique contraste remarquablement avec les situations de l'énonciation. Prenons Per Tarit, l'une des tragédies les plus malheureuses de Corneille, mais aussi l'une de celles qui nous apparaissent aujourd'hui les plus intéressantes en tant que laboratoire de thèse morale extrême et de renversement inattendu. Nous sommes en Lombardie, au cœur d'un Moyen-Âge bien reculé et sombre, que Corneille visite un peu comme une frontière et comme un miroir déformant de toute image d'héroïsme. Une femme fière, Edwige, fiancée au roi Grimoald, est trahie, comme l'Hermione de Racine, par son fiancé, qui lui préfère Rodelinde, la reine prisonnière, veuve supposée du malheureux roi Per Tarit. Edwige tente de persuader Garibald à lui ramener l'infidèle. Garibald est en effet le conseiller du roi Grimoald, mais il se trouve qu'il aspire lui-même à la main d'Edwige. C'est un peu l'antécédent de l'Andromaque de Racine. Puisqu'il objecte qu'obéir à Edwige reviendrait à favoriser un rival et à contrecarrer ses propres espoirs, Edwige s'abandonne entièrement à ses prétentions d'être aimée sans espoir de récompense. Je cite les vers d'Edwige. « Sans songer qu'à me plaire, exécuter mes lois, et pour l'événement, laisser tout à mon choix. Souffrez qu'en liberté, je l'aime ou le néglige. L'amant est trop payé quand son service oblige, et quiconque en aimant aspire à d'autres prix, n'a qu'un amour servile et digne de mépris. Le véritable amour jamais n'est mercenaire. Il n'est jamais souillé de l'espoir du salaire. Il ne veut que servir et n'a point d'intérêt qu'il n'immole à celui de l'objet qui lui plaît. » Et elle ajoute de façon encore plus claire, « Aimez-moi plus que vous ou cessez de m'aimer. » En soulignant son droit inscrutable, digne d'un souverain absolu, ou d'un Dieu dégagé de ses propres promesses, à récompenser non pas comme l'on s'acquitte d'une dette, mais comme l'on octroie une grâce. On peut attendre tout de qui ne promet rien. Beaucoup plus tard, dans Tite Bérénice, une autre femme, Domitie, au nom de sa gloire, prétendra de son amant Domitien quelque chose de contraire aux intérêts de leur amour, c'est-à-dire qu'il s'engage à séparer Bérénice de Tite et à favoriser les noces de la même Domitie avec l'empereur. Cette fois, Domitie ne veut pas reconquérir en Tite l'homme qu'elle aime, mais tout simplement le trône impérial. Elle demande justement à ce Domitien, auquel elle lie au contraire un ancien pacte amoureux. Que répondra Domitien ? C'est un dur dialogue, semblable à une négociation, où au lieu de baisser le prix, on joue à la hausse, jusqu'à glisser vers un chantage féroce. C'est un dialogue serré. Domitien, parlons à cœur ouvert, madame, et dites-moi quels fruits je dois attendre enfin d'un tel emploi. Domitie, voulez-vous pour servir être sûr du salaire? Seigneur, n'avez-vous qu'un amour mercenaire? Domitien, je n'en connais point d'autre et ne conçois pas bien qu'un amant puisse plaire en ne prétendant rien. Domitie, que ces prétentions sentent les âmes basses? Domitien, les dieux à qui les sert font espérer des grâces. Domitie, croyez-moi généreuse et soyez généreux. N'aimez plus ou n'aimez que comme je le veux. Je sais ce que je dois, un amant qui m'oblige, mais j'aime qu'on l'attend et non pas qu'on l'exige. Et qui peut immoler son intérêt au mien peut se promettre tout de qui ne promet rien. Elle dit encore, et laissez à mon choix l'effet de votre espoir, que ce soit une grâce et non pas un devoir. Domitien répondra par la menace d'épouser Bérénice. Et donc par la transgression définitive des codes courtois auxquels Domitie a tenté en vain de le reconduire. Or, un texte parallèle d'une extrême clarté nous permet d'affirmer que Corneille, dont les idées sur l'amour sont tout à fait imprégnées de souvenirs néoplatoniciens et d'influences précieuses, comme l'a bien montré jadis Octave Naval, utilise pourtant la métaphore du salaire dans un cadre de référence théologique, encore plus que courtois. La publication de Pertharite remonte à 1653. À la même date, Corneille fait paraître sa traduction en vers du deuxième livre de l'Imitation de Jésus-Christ, après avoir publié le premier livre et quelques chapitres du deuxième dans des éditions à peine précédentes. C'est donc en 1653 que paraît la traduction de ce chapitre 11 du deuxième livre qui constitue un véritable intertexte des violents dialogues d'Edwige et Garibaldi d'un côté, de Domitien et Domitie de l'autre. La belle infidèle que la traduction cornélienne explicite l'antithèse amour pur, amour propre, que se cachait déjà dans le texte original, affine un lexique et des catégories qui trouve des correspondances si étroites dans le domaine de l'amour profane. Je relis le texte latin de l'imitation dans ma prononciation d'italienne. O quantum potest amor Jesu purus, nullo proprio commodo vel amore permixtus. Nonne omnes mercenari sunt dicendi qui consolationes semper querunt, nonne amatores sui magis quam Jesu probantur, qui sua commoda vel lucra semper meditantur, ubi in venitur talis qui velit servire Deo gratis. Ma traduction, ô quel est le pouvoir du pur amour de Jésus sans mélange d'intérêt ou d'amour propre? Ne faut-il pas définir mercenaires ceux qui recherchent toujours des consolations? Là, il n'est pas question du salut éternel, hein? Il s'agit de consolation. Ne sont-ils pas des amoureux d'eux-mêmes, plus que de Jésus, ceux qui pensent toujours à leur avantage ou à leur gain? Où trouvera-t-on quelqu'un qui voudrait servir Dieu sans motif d'intérêt? Et maintenant, la traduction de Corneille. Pur amour de Jésus, que ta force est étrange, quand l'amour propre en toi ne fait aucun mélange, et que de l'intérêt pleinement dépouillé, d'aucun regard vers nous, tu ne te vois souillé. N'ont-ils pas un amour servile et mercenaire, le cœur qui n'aime Dieu que pour se satisfaire, et ne le font l'objet de leurs affections que pour en recevoir des consolations? Aimer Dieu de la sorte, et pour son avantage, c'est mettre indignement ses bontés à nos gages, croire d'un peu de vœux, payer tout son appui, et nous-mêmes enfin nous aimer plus que lui. Il faudrait peut-être lire Pertharite, la tragédie ratée, au point de faire écrire à son auteur la mauvaise réception que le public a faite de cet ouvrage m'avertit qu'il est temps que je sonne la retraite. En tenant de l'autre main l'imitation de Jésus-Christ. Peut-être qu'alors on serait moins déconcerté du personnage improbable de Pertharite, ce souverain vaincu, fugitif, prisonnier, qui aime son épouse Rodelinde au point de vouloir renoncer à son amour et s'offre spontanément à ce qu'Edwige prétend en vain de Garibald, l'effort de favoriser les noces de sa femme avec son rival. Cela dans un contexte anticornélien d'abjection et sans aucun souci de sa propre gloire. D'autre part, quel attrait obscur avait persuadé Corneille à mettre en scène un segment barbare d'histoire longobarde, où, selon les anciennes chroniques, un roi se protège sous la peau d'un ours et, pour mieux fuir, se laisse chasser à grands coups de bâton, tandis que ses amis lui font plusieurs outrages et vilenies, tellement que chassé, ainsi battu, il se laissait choir souvent en terre. C'est une chronique antique. Un héroïsme à rebours, mêlé d'abjection, semble avoir attiré Corneille, ce Corneille qui traduit l'imitation de Jésus-Christ, comme une sorte de supposition impossible. En même temps, on dirait que Corneille traduit l'imitation et transpose certaines idées dans ses tragédies, sans oublier les controverses théologiques de son époque, où sont en question la grâce, avec son hiatus infranchissable de tout mérite, un Dieu qui ne nous doit rien, et le pur amour, avec sa structure paradoxale, dans laquelle on renonce par amour à l'amour, et l'on se perd, pour le dire avec le père Surin, pour ne se trouver jamais, pour le dire avec Madame Guyon, sans espoir de se retrouver. Naturellement, dans le théâtre de Corneille, l'hypothèse du pur amour n'est pas remise en de bonnes mains. L'énonciation de ses conditions suprêmes est l'expression de son contraire. Les deux femmes agissent à cause d'un immense amour propre. Elles sont la preuve vivante de la thèse fénelonienne selon laquelle les exigences aveugles de la passion et celles encore plus radicales de l'amour propre offrent le modèle, l'anamorphose à redresser pour connaître ce qu'est l'amour pur. Mais le théâtre de Corneille prête une attention plus profonde, me semble-t-il, à ce thème. J'ai parlé du roi Pertharite, qui renonce au royaume pour avoir Rodelinde, qui renonce à Rodelinde pour qu'elle puisse, se mariant avec Grimoald, l'usurpateur, avoir un royaume. Et dans l'apothéose finale, il obtiendra, comme d'habitude chez Corneille, l'épouse et le royaume. Mais quelque chose détonne dans ce dénouement, puisque c'est la générosité de l'usurpateur qui le rend possible. Et donc c'est à celui-ci qu'en revient la gloire. L'amour oblatif qui accepte l'humiliation et le renoncement mérite finalement la récompense, mais dépourvu de gloire. Tite et Bérénice approfondit le thème et semble le renverser. La tragédie établit une sorte de symétrie entre Domici, qui prétend l'amour pur des autres, et Bérénice, qui aime, elle, d'un amour vrai. Cependant, elle se résout au geste généreux, à l'amour pur, qui se sacrifie pour le bien de Tite au moment où le Sénat et l'empereur consentent au mariage. Donc au moment où sa gloire est assurée. Si bien que la liberté inscrutable de son vouloir qu'elle exerce dans le choix du sacrifice relance la spirale de la gloire au-delà du bonheur perdu. Nous pourrions vivre heureux, mais avec moins de gloire. C'est son suprême argument pour convaincre Tite à accepter son renoncement. Dans ce cas, l'amour pur n'obtient pas la récompense, mais resplendit de gloire. Dans le banquet de Platon, de nombreuses voix intervenaient à définir l'amour. Nous savons déjà que Fénelon a occulté d'une certaine manière des positions des différentes partenaires du dialogue. Entre autres, une voix de femme, Diotime. C'est elle qui raconte le mythe de la naissance de l'amour. Ce fils de Poros et de Pénia, l'abondance et l'indigence, est à son tour enfantement dans la beauté. Il tend à la procréation et à l'enfantement, c'est-à-dire à l'immortalité, que Diotime elle-même fait coïncider avec une mémoire immortelle, un nom ineffaçable. Autrement dit, avec ce qu'à l'âge baroque on appellera la gloire. Et c'est elle qui explique par ce souci d'un nom immortel l'héroïsme d'Alceste, d'Achille et de ceux qui sont morts en se sacrifiant pour la cité. Si bien que dans le dialogue de Platon, les exemples extrêmes de l'amour désintéressé n'excluent point, telle est la polyphonie des voix du banquet, un intérêt pour sa propre immortalité que les modernes configureront comme gloire. Or, c'est cette partie du dialogue que Fénelon n'a pas retenue. On peut penser à ce point que Corneille, demeurant sans le savoir, peut-être à l'ombre de Platon, a rejoint la configuration idéale du thème, selon l'éthique et la poétique qui lui sont congénères. C'est l'éthique de l'idéalisme héroïque du 1er et 17e siècle. La reconnaissance mondaine et la pureté de la valeur ne sont pas disjointes. La gloire séparée du bonheur, mais unie à une espèce de joie, c'est la définition de gloire que donne Descartes dans Les Passions de l'âme. Ce que j'appelle ici du nom de gloire est une espèce de joie fondée sur l'amour qu'on a pour soi-même. Donc la gloire se configure comme hyperbole, éclat, magnificence, et en même temps elle est fille du paradoxe. Oxymore perpétuel, solution de l'insoluble, nouvel élan des situations bloquées propres à la tragédie implexe. C'est à force d'amour que je m'arrache au vôtre, Bérénice. Certains diront que dans cette configuration du pur amour, ce qui manque, c'est justement l'idée de pur amour comme perte de tout soi-même pour jamais, si cher à Fénelon. L'optimisme chrétien et néo-stoïque de Corneille, l'humanisme du disciple des Jésuites, l'ont empêché de mener à bon terme ses expériences autour d'un thème qui le fascine par sa nature hyperbolique et paradoxale, mais qui le rebute par sa dimension authentiquement tragique. Racine aussi est l'auteur de vers sacrés. Parmi ceux-ci, l'on sait que le cantique spirituel sur la charité est une paraphrase de l'hymne à la charité de la première lettre aux Corinthiens. L'allusion à un cœur que jamais ne touche le soin de son propre intérêt renvoie donc au texte de saint Paul, « Non querit que sua sunt » selon la Vulgate, plus qu'à des débats contemporains. Et en effet, rien dans l'œuvre de Racine, poète sacré ou traducteur de textes liturgiques, ne témoigne d'une attention particulière à la problématique de l'amour entre désintéressement et récompense. Le thème de l'amour pur se rattache à une idée absolue des droits du Dieu créateur. Or, la spiritualité de Port-Royal, le lieu où Racine a son point de départ, est centrée sur le drame de la rédemption. Elle a, on le sait, des accents profondément eucharistiques. Le moment venu, les théologiens de Port-Royal déclareront toute leur opposition aux thèses les plus caractéristiques de la mystique du XVIIe siècle. sans vouloir ici parcourir à nouveau cette dense histoire de langages, de différents langages spirituels et de leur affrontement réciproque, je me borne à rappeler ce qu'on sait très bien, c'est-à-dire que s'il y a une mystique de Port-Royal redevable aux suggestions de l'école oratorienne, et de Condrin en particulier, elle est polarisée autour de l'idée de sacrifice, à laquelle l'arrière-plan de l'anthropologie négative d'origine augustinienne prête une vaste résonance. Bien sûr, le thème du sacrifice est un terrain commun aux différentes spiritualités du grand siècle. En citant Corneille, nous avons rencontré deux fois le verbe « immoler ». L'opuscule de Fénelon ressasse l'idée de sacrifice. Le théâtre de Racine s'ouvre dans sa tragédie la plus sombre, la Thébaïde, avec l'exemple lumineux d'un Christ mythologique au sacrifice inutile, Ménécée, le plus jeune du clan familial, qui accomplit l'un de ses gestes capables de signifier, selon le banquet de Platon, la perfection de l'amour, le sacrifice de soi pour le salut de la cité. Le pur amour confié ici à un personnage qui n'apparaît même pas sur la scène s'introduit dans le théâtre de Racine avec la célèbre sourdine, chère à Leo Spitzer. Cette sourdine qui se renouvelle dans la simplicité, dans le naturel d'Andromaque qui va vers l'autel de ses noces avec Pyrrhus pour faire à nouveau ce qu'ont fait Alceste et Achille, sauver dans son fils ce qui lui reste d'Hector et suivre Hector dans le pays des ombres. Sans vouloir retracer les nombreuses occurrences du thème du sacrifice dans le théâtre de Racine, entre sacré et profane, je m'attarde seulement sur cette tragédie que le poète écrivit en compétition avec un Corneille vieillissant, Pérénice. Dans la nature élégiaque et la tristesse majestueuse font prévaloir la dimension de l'intériorité sur celle de l'action. Tandis que Corneille avait placé à côté de Tite et Bérénice le couple avide et inquiet de Domitien et Domitie, Racine se borne à l'invention d'Antiochus, la troisième roue, l'homme inutile, dont la critique de l'époque discuta longuement la raison d'être et que la critique d'aujourd'hui considère simplement comme la caisse de résonance d'un tragique élégiaque, poignant et nouveau. Type du mélancolique, comme Oreste dans Andromaque, Antiochus n'assure pas la fonction dramatique d'Oreste qui lance et relance l'action dans ses tentatives de conquérir Hermione. Les caractéristiques de cet amoureux qui joue le rôle du confident des amours d'autrui, un rôle structurellement servile, bien qu'il soit roi. Donc, ces caractéristiques sont l'attente, l'inaction, jusqu'à la scène finale de la tragédie où il se passe quelque chose d'absolument singulier. Donc, Bérénice et Titus sont seuls sur la scène. Leur amour a pris le pli cruel du chantage réciproque. Ils agitent l'un et l'autre le fantasme de leur propre mort comme une menace pour l'autre. Loin de la promettre, tel Achille dans le banquet, en signe d'amour. Bérénice s'est laissée tomber sur une chaise, la fameuse chaise qui revient dans le théâtre de Racine pour les femmes qui ont perdu toute maîtrise d'elles-mêmes. C'est à ce moment-là qu'entre Antiochus, à contre-temps, et dans l'équivoque, Antiochus qui a épié d'acte en acte de façon anti-héroïque les différends entre Bérénice et Titus, Antiochus qui, parfaite incarnation ante litteram du paradigme freudien de deuil et mélancolie, a prononcé des vers de dégoût de lui-même, tellement déconcertants qu'ils disparaîtront dans l'édition définitive de la tragédie. À plus forte raison, il mérite d'être rappelé ici, malheureux que je suis, avec quelle chaleur j'ai travaillé sans cesse à mon propre malheur. C'en est trop, je rougis de toutes mes faiblesses, désespéré et confus à moi-même, odieux, Laisse-moi, il parle à son confident, je me veux cacher même à tes yeux. Antiochus, qui fout de compassion pour Bérénice, poussé donc par une émotion que les moralistes de l'époque méprisaient, a essayé de lui ramener Titus, pénétrant ainsi par une entrée secondaire dans la sphère de l'amour pur. Face aux amants qu'il croit réconcilier, il annonce à son tour de façon solennelle sa propre mort. L'extrême singularité de cette situation, c'est que le roi serviteur, le double crépusculaire, le personnage jugé inutile, s'élève tout d'un coup au sommet de l'amour pur, offrant sa propre mort comme sacrifice et un sacrifice remarquablement semblable, toute proportion gardée, à celui qu'inspirait la supposition impossible des mystiques, car il s'offre au courroux des dieux, métaphore mythologique d'un dieu qui condamne, pour le détourner du sort des deux amants. Je cite « Oui, madame, vers vous j'ai rappelé ses pas, mes soins ont réussi, je ne m'en repens pas. Puisse le ciel verser sur toutes vos années mille prospérités l'une à l'autre enchaînées. Ou, s'il vous garde encore un reste de courroux, je conjure les dieux d'en épuiser les coups qui pourraient menacer une si belle vie sur ces jours malheureux que je vous sacrifie. » Bérénice se lève alors et elle dicte les règles ultimes du jeu tragique, c'est le dénouement qui commence. Il ne reste que vivre, fidèles, tous les trois, les uns aux autres, éloignés l'un de l'autre, en renversant le modèle platonicien de l'amour qui consistait dans le fait de mourir l'un pour l'autre ou de suivre l'être aimé dans la mort, ou plutôt en réalisant de façon antiphrastique ce même modèle, puisque l'absence, l'Orient désert, tant de mers qui séparent, ne sont-ils pas la mort dans sa substance de séparation, son retour? Nous sommes passés d'une situation conflictuelle de chantage, sa mort comme une menace pour l'être aimé, à une situation de rachat, où la tragédie élégiaque célèbre de façon pathétique la communion des adieux et la réciprocité des éloignements. Racine aussi a rejoint avec Bérénice la configuration de l'amour pur qui lui est congénère. Dans cette configuration, bien que l'univers soit le spectateur des larmes des trois personnages, la splendeur de la gloire ne joue aucun rôle, au point que le mot même de gloire est absent de la dernière scène. Dans cette configuration, propre à l'époque de la démolition des héros, l'hyperbole est celle de la complainte sur l'humaine condition, l'amour la plus tendre et la plus malheureuse. L'oxymore est dans la situation du mal-aimé qui prend sur lui le sort des amants, du personnage superflu qui devient, ne fût-ce que pour un moment, la clé de voûte de la tragédie. Je me suis bornée à parler de Bérénice pour ne pas sortir de petits jeux du parallèle avec Corneille. Il faudrait souligner l'importance que le thème du sacrifice revêt tout au long de l'œuvre racinienne comme un fil rouge, parfois un fil de sang, qui se déroule de la Thébaïde à Athalie. Et il me semble remarquable que, tandis que le théâtre de Corneille se présente comme un laboratoire extraordinaire de débats moraux, voire théologiques, y compris celui sur l'amour désintéressé, le théâtre de Racine, voué à représenter la violence des passions, offre en fait une panoplie de personnages prêts au sacrifice d'eux-mêmes, rejoignant ainsi avec une aisance mystérieuse, comme pour devancer le phénom de l'opuscule, un archétype universel de la spiritualité et de l'imaginaire. Pour conclure le petit jeu du parallèle, soulignons que si chez Corneille la question de l'amour pur est enchâssée dans une problématique de l'héroïsme, vrai ou présomptif, chez Racine, cette disposition à laquelle il ne donne aucun nom particulier est le plus souvent l'apanage des minores, de Ménécée, le plus jeune, d'Andromaque, veuve et prisonnière, de Junie, qui a grandi dans l'ombre et dans les larmes, d'Antiochus, ébloui par la gloire de Titus, de la tendre Iphigénie, d'Esther, tremblante et seule, de l'enfant Joas, au moment où les gestes qui précèdent son couronnement lui apparaissent comme les rites préparatoires d'un sacrifice. Quelle que soit la difficulté de circonscrire une dimension janséniste dans l'œuvre de Racine, c'est ici, dans cet éloge de l'enfant et de l'orphelin, dans ce discours de l'éminente dignité du faible, ici je rappelle Philippe Sellier, un peu aussi René Girard, que le poète manifeste effectivement l'empreinte qu'il a reçue dans son enfance à Port-Royal et qui, d'une certaine manière, rend sacré et chrétienne jusqu'à ses tragédies profanes. Orphelin, anti-janséniste bien sûr, n'aurait-il pas pu tendre l'oreille au-delà des voix, des passions, du théâtre tragique de l'époque à cette note pure qui était aussi sa propre note? On trouve aussi chez Fénelon des enfants qui meurent et qui meurent en se sacrifiant. Lui qui a cité dans son opuscule Socrate, Platon, Cicéron et l'exemple d'Alceste, n'aurait-il pas pu également se tourner vers la littérature de son époque pour vérifier l'universalité du principe qu'il défendait passionnément? Il ne l'a pas fait. Il avait ses bonnes raisons pour ne pas le faire. Mais il n'est peut-être pas hors lieu de supposer qu'en se tournant si résolument du côté de l'Antiquité, il réglait aussi sans éclat sur un thème crucial de sa pensée, une personnelle, une secrète querelle des anciens et des modernes. Relisons la lettre de Fénelon à Bossuet sur la charité. Non moins dur que l'opuscule sur le pur amour, j'ai montré clairement dans mes lettres que les païens ne comptant point sur une autre vie, ont cru devoir sacrifier celle-ci pour leurs amis, pour la patrie, pour la vertu, et qu'ainsi ils mouraient dans la douleur, sans aucune espérance de bonheur futur. J'ai cité l'exemple décisif de Socrate, j'ai rapporté ses dernières paroles. Ces païens n'avaient dans l'esprit, selon saint Augustin, cité par vous-même, Bossuet, aucun motif de béatitude future en sacrifiant leur vie présente avec tant de douleur. Sans aucune espérance, avec tant de douleur. Provenant d'un pays d'ombre, exprimant l'état des païens, la fable et la philosophie des anciens offrent un regard chrétien, une sorte de mise en abîme du thème de la perte. Ces hommes, je cite Fénelon, aliénés de la vie de Dieu, vivent nécessairement l'expérience d'abandon que Fénelon envisage comme une suprême épreuve spirituelle. Avec leur bandage sur les yeux et leur marche dans le non-voir, ils sont des témoins purs. De façon très paradoxale, c'est par ce qui leur manque, c'est par ce qu'ils n'ont pas connu, que les anciens semblent être, aux yeux de Fénelon, des présences plus fraternelles et ils apparaissent plus grands que les modernes. Là, c'est ce que je voulais proposer à ce sujet. Je ne sais pas s'il y aura un débat. Je vous remercie.